un œil ailleurs. Un petit tour de la planète. Totalement subjectif.
Notre petit tour de la planète totalement subjectif commence par une plainte, celle déposée par un cabinet d'avocats londonien contre Facebook, qui aurait la fâcheuse tendance à censurer et suspendre les comptes appartenant à des agences de presse, des défenseurs ou des journalistes palestiniens. Alors la plainte a été déposée au nom de deux organisations, le Centre international de justice pour les Palestiniens et Sada Social, un groupe de défense des droits numériques. Alors pour qu'un cabinet d'avocats londonien accepte de mener le combat contre le géant numérique, on peut penser que la censure n'est pas une vue de l'esprit. En réalité, ça fait des années que les Palestiniens accusent Facebook de censurer leurs récits. Mais il semble que la goutte ait fait déborder le vase en mai dernier, alors que des militants palestiniens ont remarqué que leurs publications étaient systématiquement effacées sur Facebook, mais pas seulement, également sur Instagram, Twitter et d'autres réseaux sociaux, voire même que leurs comptes disparaissaient carrément. Sada Social a recensé plus de 600 cas de censure palestinienne qui concerneraient des comptes de journalistes ou de médias depuis le début de l'année 2021. Et les faits sont confirmés par une lettre signée en juin par 200 employés de Facebook qui accusaient leur employeur de déclasser ou de supprimer des contenus pro-palestiniens. Alors forcément, la grande question qui se cache derrière, si ces contenus ont été effacés, ben qui donc l'a demandé ? Est-ce que, à tout hasard, le gouvernement israélien pourrait y être mêlé ? Ben, on ne sait jamais. Hein. Surtout quand on sait que la Knesset, le Parlement israélien, a approuvé un projet de loi préliminaire qui permettrait aux tribunaux israéliens d'exiger le retrait de contenus postés sur les médias sociaux qui pourraient être considérés comme, je cite, « portant atteinte à la sécurité de l'État ou à la sécurité du public ». Fin de citation. Mais tout ceci n'est évidemment que supposition et le dépôt de plainte pourra peut-être apporter quelques réponses. À suivre donc. On poursuit notre petit tour de la planète totalement subjectif avec un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et de l'UNICEF qui illustre parfaitement le cynisme des marketeurs. Et en l'occurrence, on parle là de substituts de lait maternel qu'il s'agit de vendre aux jeunes parents comme étant évidemment meilleur que lait maternel. Alors une étude menée dans 8 pays, qui sont donc le Bangladesh, la Chine, le Mexique, le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et le Vietnam. Donc cette étude montre que 51% des parents et des femmes interrogées ont été la cible de campagnes marketing au profit de ces laits en poudre. Le truc, c'est que depuis 1981, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est censé protéger les mères des pratiques commerciales intrusives de ces fabricants. Mais c'est bien connu, le diable se glisse partout, surtout à l'heure d'Internet. Et puis, Internet n'empêche pas les bonnes vieilles méthodes hein, qui consistent à organiser des formations et à offrir des cadeaux aux agents de santé ben, pour décrédibiliser l'allaitement auprès des femmes enceintes et puis tout juste maman. Alors, il faut dire qu'avec un marché de 55 milliards de dollars, ben, ça vaut le coup d'essayer de persuader le chaland. Alors, l'OMS rappelle simplement que l'allaitement maternel jusqu'aux 6 mois du bébé, eh bien, c'est le meilleur moyen de défense contre la malnutrition, y compris l'obésité, et contre plusieurs maladies infantiles, et accessoirement, bah, qu'il protège même les mères de certaines formes de cancer, et puis surtout, bah, ça coûte bien moins cher. Allez, on file en Arabie Saoudite, où il est question de femmes encore, et pour une fois, elles sont à l'honneur, en short et basket aux pieds. Alors certes, pas un cheveu ne dépasse de leur foulard noir, mais disons qu'on progresse, question liberté accordée au genre féminin, dans ce pays où c'est loin d'être la gloire en la matière. L'actu, c'est donc la tenue d'un tournoi de basket féminin organisé sous l'égide de la Fédération saoudienne de basket début mars. Et puis, le foot est aussi concerné, avec une équipe nationale féminine qui a gagné 2-0 contre les Seychelles lors d'un match amical fin février, à tel point que leur entraîneuse, allemande, rêve de voir l'équipe intégrer la FIFA. Alors évidemment, il est tentant de louer les réformes du prince héritier Mohamed Ben Salman, dit MBS, qui peut se targuer d'avoir permis aux femmes de conduire et de faire du sport en public. Mais n'oublions pas que c'est ce même MBS qui fait découper les journalistes en morceaux quand ils le chatouillent un peu trop. Et comme il est impossible de terminer ce petit tour de la planète totalement subjectif sans parler de la guerre en Ukraine, eh bien on va jeter un œil aux frontières du pays où il semble y avoir deux poids, deux mesures quand il s'agit de laisser les habitants fuir la guerre. Des vidéos montrent des résidents africains et asiatiques empêchés de passer la frontière pour rejoindre la Pologne ou la Slovaquie, au point que l'Union africaine a réagi en se disant préoccupée par le fait que des Africains seraient interdits de fuir la guerre. Une situation qui met très, très, mais alors vraiment très en colère, la rédaction du journal burkinabé Aujourd'hui au Faso, je cite, « Cette ségrégation est une injure et montre que les vieilles habitudes ont la peau dure. L'Europe, et surtout l'Europe de l'Est, reste un espace dangereux pour nombre d'Africains qui subissent, tout au long de leur séjour, les quolibets et les pires formes d'humiliation de la part d'Européens pourtant enclins à donner de la voix quand ils sont touchés. » Fin de citation. Chers auditeurs, je vous laisse méditer sur ces derniers mots et vous retrouve ici même dans 15 jours.